Ce radicalisme s'exprime d'ailleurs dès cette époque dans le fait que Marx pousse, jeune Marx pousse considérablement Bruno Bauer à essayer de fonder une revue qui va infiniment plus loin que les éléments de gauche, une revue de l'athéisme. Bon, cette revue, pour d'autres raisons, ne verra jamais le jour. Alors nous avons examiné déjà la misère allemande, Hegel, les hegeliens de gauche et l'apparition du jeune Marx. Maintenant, il faut passer à un deuxième aspect, qui est la deuxième partie de notre première partie, c'est le dépassement de Hegel par le jeune Marx, sous une forme encore philosophique, à travers l'expérience, une expérience politico-journalistique, et aussi avec la rencontre de la critique de la philosophie de Hegel par Ludwig Feuerbach. Marx, par l'intermédiaire de Bruno Bauer, va collaborer puis devenir le rédacteur en chef d'un journal, journal rhénan, bourgeois et libéral, et en proie à la répression et à la censure. Comme il le dira plus tard, c'est une étape importante parce que, pour la première fois, il sort de la philosophie pure et il commence à affronter les problèmes matériels et les limites de la démocratie libérale. Et cette expérience est essentielle pour comprendre la façon dont Marx va dépasser Hegel. À cette époque, Marx fait encore la critique philosophique de l'État prussien dans le but de rater la réalisation de l'État rationnel moderne. C'est-à-dire qu'il est encore dans la mouvance classique des hegeliens de gauche. Mais il se coupe déjà de ce qu'on appelait les affranchis, qui, en dehors de leur discours abstrait, discours philosophique, se caractérisaient par des initiatives spectaculaires pour épater le bourgeois, n'est-ce pas ? Eh bien, Marx rompt avec eux. Il considère qu'il faut s'attacher à l'analyse des situations concrètes, et ceci en faisant preuve de connaissances précises. D'autre part, dans le même ordre d'idées, il considère que la philosophie, même s'il part encore d'un point de vue très idéaliste, doit avancer vers le concret. D'ailleurs, il dit à cette époque, les philosophes ne sortent pas de terre comme des champignons, ils sont le fruit de leur temps, de leur peuple. Le même esprit construit les systèmes philosophiques dans le cerveau des philosophes, qui construit les chemins de fer avec les mains des travailleurs. Dès cette époque, la religion et par suite la politique lui paraissent déjà comme des conséquences de processus sociaux déterminés. Dans son article sur la loi adoptée par le Landtag concernant le vol des bois, Marx a mesuré, s'est rendu compte de l'existence d'une nécessité extérieure et du poids des données économiques. C'est aussi l'époque où il rencontre sur son chemin le communisme utopique, sans pourtant y adhérer. À la fin de l'expérience de la Gazette rhénane, Marx va aller beaucoup plus loin. Mais auparavant, il faut rendre compte de sa rencontre avec la philosophie de Feuerbach. Feuerbach a publié un ouvrage, son grand ouvrage essentiel, c'est date de 1840 ou 1841, je ne me rappelle plus, et il s'intitule « L'essence du christianisme ». Feuerbach rompt avec Hegel parce qu'il rompt avec le point de départ idéaliste de la logique hegelienne. Pour lui, le point de départ de la logique, ça ne peut pas être l'être pur, faisant abstraction de toutes les déterminations, parce que seul l'être déterminé est l'être. Seul l'être déterminé existe. On peut en dire quelque chose. Dans l'essence du christianisme, il considère que le propre de l'homme, ce qui est spécifique de l'homme, l'essence de l'homme, c'est d'avoir conscience de son espèce. L'objet de l'homme, c'est sa propre essence. L'objet produit par l'homme est donc la manifestation des qualités propres de l'homme. Dans la religion, l'objet de l'homme est Dieu. Dieu est donc la manifestation de l'essence de l'homme. La perfection divine n'est que la transposition dans la personne de Dieu des qualités éminentes que l'homme a reconnues dans sa propre espèce et qu'il porte à l'absolu en faisant des attributs divins. C'est par conséquent le renversement de Hegel. L'homme produit en Dieu l'être absolu dans lequel il doit se reconnaître. Dieu, c'est l'aliénation de l'essence de l'homme. L'homme concret, le monde sensible, doivent être les véritables points de départ de la philosophie. Marx s'est intéressé de très près à l'humanisme philosophique de Feuerbach, mais il s'y est intéressé dans la même ligne que celle de la Gazette Rhénane, c'est-à-dire d'un point de vue politique et journalistique. Il va se consacrer à une critique feuerbachienne, c'est-à-dire en utilisant l'acquis de Feuerbach, de la philosophie du droit de Hegel, dans trois ouvrages: la critique de la philosophie du droit de Hegel, qui date de 1843, c'est un manuscrit qu'il a écrit à Kreuznach, dans une des rares périodes où Marx s'est retiré, comme il dit, dans son cabinet de travail, après la fin de l'expérience de la Gazette Rhénane. C'est un manuscrit qui n'a jamais été publié, enfin qui n'était pas destiné à la publication d'ailleurs. Deuxième ouvrage, La question juive, qui a été écrite également en 1843, qui sera publié dans la nouvelle revue que Marx va fonder quand il va arriver en France, les Annales franco-allemandes. Et enfin, La contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, qu'on confond toujours avec la première, parce qu'entre contribution et critique, c'est difficile, c'est la différence, mais ce n'est pas le même texte, il est plus tardif, et il a été également rédigé pour les Annales franco-allemandes. Alors, première étape, c'est-à-dire critique de la philosophie du droit de Hegel, ce qui est déterminant pour l'État devient la société civile. Dans le système hegelien, l'État incarne l'universel et c'est un niveau supérieur à la société civile ou monde des besoins où se disputent les intérêts privés. En disant que c'est la société civile qui détermine l'État, Marx, le jeune Marx, produit l'inversion du système hegelien de la même façon que Feuerbach avait inversé la théorie de Hegel en faisant de Dieu l'aliénation de l'essence de l'homme, en renversant la philosophie hegelienne. Mais alors, si l'État est le produit de la société civile, il cesse de planer, n'est-ce pas ? Il est déterminé par les conditions matérielles de la vie en société, il est dépouillé de son côté mystique. La critique de Marx, dès cette époque, va déjà plus loin que la simple inversion matérialiste du système hegelien dont on vient de voir l'aspect principal. La critique de Marx, dès cette époque, et c'est assez négligé en général, affecte même la méthode. Marx dit: Hegel donne un corps politique à sa logique, il ne donne pas la logique du corps politique. Autrement dit, Marx critique la dialectique a priori de Hegel, c'est-à-dire la dialectique imposée de l'extérieur au monde réel. Et se profile déjà derrière cette critique l'idée que la dialectique ne peut plus être que la logique spéciale d'un objet spécial, et non un schéma d'interprétation qui serait chargé d'accommoder toutes les réalités. Autrement dit, on s'approche de la dialectique telle que l'a formulée plus tard Lénine, analyse concrète d'une situation concrète. Bon, on est encore loin, mais il y a des aspects évidents qui ressortent dès cette époque, comme quoi c'est dans cette direction que Marx évolue. Deuxième étape, les annales franco-allemandes. Alors d'abord, il faut expliquer le titre. C'est une revue qui va paraître à Paris, et l'idée d'appeler ça annales franco-allemandes, c'est l'idée d'allier, de synthétiser ensemble la philosophie allemande théoriquement avancée et l'expérience politique révolutionnaire française. Et pendant son séjour en France, Marx non seulement se pénètre davantage des socialistes utopiques, mais mieux, il va, au cours de cette expérience des annales franco-allemandes, passer du libéralisme et de la critique démocratique de l'État au communisme, et pas à n'importe quel communisme, à une vision révolutionnaire du communisme. Alors d'abord, Marx, dans les manuscrits qui sont réunis dans les annales franco-allemandes, pense qu'il faut passer de la critique du ciel à la critique de la terre, au monde qui existe. Premier aspect. Deuxième aspect, cette critique doit être pratique. Et la philosophie, par conséquent, doit s'appuyer sur une classe révolutionnaire. Et à cet égard, très important, parce que finalement, on peut encore apprendre pas mal de choses à partir de cette formule, il ne s'agit pas de décréter des vérités philosophiques, mais d'amener, comme il le dit à cette époque, d'amener le monde à se saisir de sa propre conscience, l'éveiller des rêves qu'il entretient sur lui-même, lui expliquer ses propres actions. En ce sens, on voit qu'il y a deux dimensions capitales qui apparaissent. Premièrement, primauté du réel, conçu comme l'activité pratique des hommes, et deuxièmement, reprise à la manière de Feuerbach du concept d'aliénation, mais couplé avec la première dimension, ce qui éloigne radicalement Marx de Feuerbach, parce que Feuerbach est resté complètement étranger, précisément, à la praxis, la pratique humaine. Enfin, ça, c'est Victor qui vous développera cet aspect des choses. Marx fait encore un pas de plus, parce qu'il évolue vers le communisme. La contradiction principale qui lui apparaît à cette époque, c'est la structure contradictoire de la société civile, structure contradictoire de la société civile qui est dominée par la propriété privée, propriété privée par conséquent qu'il faut abolir pour réaliser l'homme générique, l'homme total. C'est dans la contribution, le dernier écrit dont j'ai parlé tout à l'heure, que Marx va le plus loin. L'État et la société produisent la religion, conscience inversée du monde, parce qu'ils sont eux-mêmes un monde à l'envers. Ce sont les conditions inhumaines de vie de la société qu'il faut changer. Il existe une classe dont les chaînes sont radicales, à la différence de la bourgeoisie avant sa propre révolution, c'est le prolétariat. Pourquoi ? Parce que le prolétariat, c'est la négation de la philosophie, c'est l'injustice en soi, la perte totale de l'homme. La réalisation de la philosophie passe par l'alliance du prolétariat et de la philosophie, ce qui représente la négation de la négation. La philosophie ne peut se réaliser sans le prolétariat. Le prolétariat ne peut s'abolir sans réaliser la philosophie. Dernier aspect de la première partie, le jeune Marx. Je crois qu'on terminera après le jeune Marx, c'est dommage, mais enfin, je suis obligé de trouver une fin. C'est surtout la deuxième partie de l'exposé, évidemment, qui aurait prêté à discussion. Enfin, là aussi, parce qu'il y a un certain nombre de bourdes, c'est normal, je suis très intimidé par les micros, mais enfin, en dehors de ça, je pense qu'on sera à peu près d'accord sur le contenu. Alors, il faut maintenant examiner les manuscrits 44. C'est le dernier écrit du jeune Marx proprement dit, dernier écrit proprement philosophique du jeune Marx, où il se livre pour la première fois à la critique de l'économie politique anglaise. Alors c'est une critique qui est encore philosophique et qui en ce sens tranche avec la critique scientifique ultérieure qu'il fera dans le cadre du matérialisme historique, dans la contribution à la critique de l'économie politique de 1859 ou dans le Capital dont le sous-titre est « Critique de l'économie politique ». On voit en effet le côté philosophique des choses dans les notes qu'il écrivait sur ce, à cette époque. J'en cite une. « La propriété privée est un fait dont la justification ne concerne en rien l'économie politique, mais qui constitue cependant son fondement. Il n'y a pas de richesse sans propriété privée, et l'économie politique est par essence la science de l'enrichissement. Il n'y a donc pas d'économie politique sans la propriété privée. Toute l'économie politique repose donc sur un fait sans nécessité. » On voit donc que le point de départ de sa critique est proprement philosophique. Ce point de départ est également humaniste et feuerbachien. Citons un autre passage du même texte. « Les sentiments humains se situent en dehors de l'économie politique » et l'absence d'humanité se situe en elle. On voit directement dans quelle optique se développe cette première critique de l'économie politique anglaise. Marx accepte, dans les manuscrits 44, Marx accepte telles quelles les catégories, les lois de l'économie politique classique. Il ne remet en question que la méthode de l'économie politique classique, et ceci du point de vue de l'homme et du rôle dévolu au prolétariat. Pour lui, l'économie politique, c'est la théorie du travail aliéné et de la propriété privée considérée comme éternelle. Mais c'est en cela qu'il va faire une critique, mais sans remettre en cause, encore une fois, les lois de l'économie politique classique. Alors, dans les manuscrits de 44, Marx produit la fameuse théorie du travail aliéné. Pour les manuscrits de 44, le travail à l'origine a deux caractères. Il est appropriation de la nature et son but est la satisfaction d'un besoin. Il est manifestation spécifique, manifestation de la vie spécifique de l'homme, ce qui le distingue de l'animal. Bien entendu, le travail a un caractère double, puisque le travail aboutit à un produit qui est différent de l'acte par lequel on travaille. Il y a une différence entre le travail lui-même et le produit du travail, de l'activité créatrice. Mais, et ça c'est important, malgré son double caractère, à l'origine, Marx considère que le but et l'existence coïncide que le produit du travail est son corps non organique, c'est l'homme objectivé, mais ça n'est pas du travail aliéné. L'objectivation de l'homme dans le travail n'est pas en même temps aliénation de l'homme. En ceci, sa théorie du travail aliéné diffère de la philosophie hégélienne classique. La philosophie hégélienne classique, dans la philosophie classique hégélienne classique, ce qui caractérise l'aliénation, c'est d'abord l'extériorisation, l'incarnation, l'objectivation de l'idée. Et cette objectivation est une aliénation qu'on peut reprendre par la simple critique philosophique. Ici, le travail en soi n'est pas considéré comme aliénant, l'objectivation de l'homme par le travail n'est pas considéré comme produisant le travail aliéné. Le travail aliéné survient avec l'échange, où le travail change de caractère. Ça n'est plus la manifestation du besoin d'activité, mais une activité pour la satisfaction d'un besoin. Et alors l'existence et le but ne coïncident plus. Le travail devient une activité en vue d'un gain, et il est subordonné à ce but. L'origine de l'aliénation générale prend sa source dans le travail aliéné, et tous les aspects négatifs de la société capitaliste prennent également leur source dans le travail aliéné. Et la société capitaliste, c'est quoi ? C'est l'expression la plus achevée du travail aliéné. On peut considérer trois moments dans le travail aliéné. D'abord, l'aliénation du produit du travail. Cette aliénation du produit du travail, c'est le résultat de la division du travail et de l'échange que le capitalisme a généralisé. Le produit du travail devient une marchandise parfaitement étrangère, obéissant à des lois étrangères, à celles qui ont présidé à sa création. C'est l'aspect dépossession de l'aliénation. Deuxième moment, l'aliénation de l'acte du travail. Les maîtres imposent les fins, mais aussi les moyens et les méthodes de travail. Le travailleur devient l'appendice de chair d'une machine d'acier. Il y a aliénation dans l'acte du travail, c'est l'aspect dépersonnalisation de l'aliénation. Enfin, il y a aliénation de la vie générique. Le patrimoine humain légué par l'humanité antérieure, tout ce qu'il a créé, les machines, etc., deviennent la propriété de quelques-uns. La puissance sociale devient puissance privée et elle appartient à une puissance étrangère aux travailleurs. C'est l'aspect déshumanisation du travail aliéné. Plus l'avoir privé grandit, plus son auteur, le travailleur, l'ouvrier, perd de son être. Bon, il faut souligner que quand même, il y a des aspects qui disparaîtront complètement dans le Marx de la maturité. Ça, c'est le sujet de notre deuxième partie. Enfin, il faut se rendre compte d'un certain nombre de dimensions avant d'aborder la problématique de la coupure. D'abord, la propriété privée dans les manuscrits de 1844, elle apparaît davantage comme le résultat du travail aliéné plus que comme un fait historique, même si Marx considère que le capitalisme est son expression historique la plus achevée. La suppression de la propriété privée et de l'aliénation sont à l'ordre du jour. Et pour Marx, le communisme, c'est l'abolition positive de la propriété privée et de toute aliénation. En effet, l'histoire du travail aliéné, c'est celle aussi de la richesse et de l'universalité des besoins humains. Je cite, « Dans l'industrie matérielle courante, nous avons devant nous, sous forme d'objets concrets, étrangers, utiles, sous la forme de l'aliénation, les forces essentielles de l'homme objectivé. » Par conséquent, pour s'approprier cette nature qui se crée dans l'histoire, il faut supprimer la cause de l'aliénation primitive, la propriété privée. Ce sera la fin de la préhistoire, la réalisation d'une société pleinement humaine, où l'opposition de l'homme avec la nature cessera, la nature deviendra le champ de l'activité de ses forces libres, et l'homme sera réconcilié avec l'homme.
Bon, mis à part les problèmes de, disons, de vocabulaire auxquels il faudra un peu s'habituer, hein, à la longue, je pense que ça peut venir. Y a un truc que j'ai pas du tout pigé, c'est bon, au moment où il arrive en France, il rencontre les communismes utopiques. Il en arrive à la critique, de passer de la critique de l'idéalisme à la critique de la matière. Et pour avoir une critique pratique, tu as dit qu'il fallait qu'il s'appuie sur une classe révolutionnaire. Comment est arrivée cette idée de classe révolutionnaire ?
Oui, putain, bah écoute, c'est arrivé avec la rencontre, précisément, de Marx et de l'histoire réelle, en particulier de l'histoire du mouvement français, du mouvement ouvrier français. Quand il arrive en France, le mouvement ouvrier français est en plein développement. Il y a des luttes très considérables, n'est-ce pas, qui se développent. Alors évidemment, ce n'est pas le mouvement ouvrier qu'on connaît aujourd'hui. Et il est encore dominé par des théories utopiques, ou pas seulement utopiques, enfin il y a aussi Proudhon, enfin c'est plus compliqué, mais enfin par des théories pré-marxistes, évidemment. Enfin, quand il arrive en France, Marx rencontre un mouvement ouvrier qui existe, qui mène des luttes, n'est-ce pas? Alors justement, c'est un problème que tu abordes et qui est assez important. Certains considèrent aujourd'hui que la théorie, ça se fait dans la théorie. Que tout se passe à l'intérieur de la théorie. On prend un papier, un bouquin, puis voilà. C'est pas possible. L'histoire même de la formation de Marx prouve que la rencontre avec le mouvement ouvrier réel, les luttes ouvrières réelles, est absolument essentielle. Alors c'est pas seulement pour la formation de la pensée de Marx, c'est aussi pour l'avenir de la pensée de Marx. Il n'y a qu'à se reporter, par exemple, à ce qu'il dit dans le Manifeste communiste, par exemple, où il dit le marxisme, ou la théorie, je ne sais plus, enfin peu importe, n'est que l'expression générale des conditions réelles existantes de la lutte des classes qui se déroule, la lutte des classes existantes, du mouvement historique qui se déroule sous nos yeux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que on ne peut pas mettre de côté la rencontre de Marx avec l'existence d'un mouvement ouvrier. Même si en 1843, Marx ne connaît encore ce mouvement ouvrier que de l'extérieur. Il ne fait pas encore partie d'organisation ouvrière ou même de secte particulière. Dans son adhésion à la Ligue des communistes, enfin la Ligue des justes qui deviendra la Ligue des communistes, je crois que c'est ultérieur. Honnêtement ultérieur. Mais enfin, il rencontre l'existence d'un mouvement ouvrier qui mène des luttes. Et il rencontre aussi l'existence d'une vie politique où intervient déjà, d'une certaine façon, la classe ouvrière. Rappelez-vous vos souvenirs d'histoire, après l'accession au trône de Louis-Philippe, il y a eu des luttes ouvrières considérables après 1830, n'est-ce pas? Et à partir de 1840, après une période de dure répression, elle redémarre. Et ça aboutira à un phénomène majeur sur le plan de l'histoire du mouvement ouvrier. C'est tout simplement la révolution de 1848 qui se fait dans l'ignorance complète du marxisme, puisque à ce moment-là, Marx écrit son manifeste qui n'est encore lu par personne, n'est-ce pas? Donc il rencontre un mouvement ouvrier réel, vivant, qu'il ne pouvait voir que d'une manière livresque en Allemagne à travers les écrits des socialistes utopiques. Les manuscrits de 1844 sont doubles. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment totalement hétérogènes. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que ce sont des manuscrits, c'est-à-dire des notes rédigées par Marx, qui n'étaient pas destinées, enfin telles quelles en tout cas, à une publication, n'est-ce pas? Alors ils ne sont en particulier jamais publiés, parce que comme après Marx va développer autre chose, et en particulier le matérialisme historique, c'est-à-dire qu'il va raisonner avec des concepts nouveaux, comme par exemple rapport de production, développement des forces productives, travail concret, travail abstrait, plus-value, force de travail, etc. Tout ça n'apparaît pas, évidemment, dans les manuscrits de 44. Bon, évidemment, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus aucune raison de reprendre ces manuscrits qu'il avait dépassés complètement. Alors, ces manuscrits sont des travaux préparatoires qui sont profondément hétérogènes et moi, je dirais même contradictoires. Par exemple, dans le premier manuscrit, on considère, enfin, on peut considérer l'aliénation comme le résultat d'un processus historique et social déterminé, c'est-à-dire que ça ne renvoie pas à l'essence de l'homme qui est le travail, n'est-ce pas? Et la propriété privée, il en va de même d'ailleurs dans ce premier manuscrit. Mais à la fin du premier manuscrit et dans les autres manuscrits, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le travail aliéné renvoie à l'essence abstraite de l'homme et à la théorie du travail humain, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils se scissionnent, qu'ils s'aliènent, etc. Et la propriété privée devient une sorte de phénomène de ce mouvement d'aliénation et n'est, si vous voulez, est considérée comme une déduction de ce raisonnement philosophique au lieu d'être considérée d'abord comme une réalité historique et social déterminé, historiquement situé, ce que d'ailleurs dans les manuscrits de 44, Marx ne fait jamais avec précision. Ce qu'il fera évidemment après. La propriété privée capitaliste apparaît comme un stade de développement particulier situé du développement historique.
Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les Hegeliens orthodoxes et la bourgeoisie rhénane et entre les Hegeliens de gauche et la bourgeoisie rhénane?
Non.
D'autre
non, il
n'y
a pas de lien à faire.
Alors, pas lien à faire.
Oui.
Ni l'une ni l'autre.
Non, justement, ce qui distingue en particulier, tu reprendras le micro pour poser la suite de ta question, là je réponds à celle-là, puisque c'est assez simple. Ce qui distingue en particulier, justement, Hegel, non, excusez-moi, Marx, John Marx, des Hegeliens de gauche, c'est que lui, il provient de cette branche rhénane, de cette zone rhénane, hein, qui a une tradition politique avec une bourgeoisie libérale qui est active politiquement. Tandis que quand il rencontre les Hegeliens de gauche, bon, il les rencontre à Berlin, c'est-à-dire pas du tout dans la Rhénanie, quoi. Pas du tout, ça ne les intéresse pas beaucoup, ça, ils sont dans l'idéologie, dans la spéculation, n'est-ce pas? Alors, ça a une certaine importance, cet aspect des choses, et ça se confirme d'ailleurs dans le fait que Marx a accompli progressivement sa remise en cause de la philosophie hegelienne à travers une expérience journalistique et politique qui est au départ une expérience au service de la bourgeoisie libérale rhénane dans la Gazette rhénane. Tu comprends? Bruno Bauer, lui, il n'était pas rhénan. Il est venu à la Rhénanie. Parce que Marx, lui, il est parti de la Rhénanie pour aller chez les Hegeliens et revenir à la Rhénanie. Tu comprends ce que je veux dire?
Alors,
Oui, à la présence française. En fait, la Rhénanie avait une culture qui reprenait la culture bourgeoise de la Révolution française.
C'est aussi plus industriel, je pense.
Ah oui, absolument.
C'est le ménestrel. Oui, je pense, si tu veux, que finalement tu as une très grande responsabilité en parlant ici, et que quand tu portes des jugements sur certaines œuvres de base, comme Marx, Engels, Lénine, c'est assez gênant, si tu veux, parce que tu les fais probablement en ton nom propre.
Et ah bah, que,
oui, mais d'accord, tu comprends quand tu vas dire Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie allemande, qui est exactement le sujet de ce soir, et si on doit lire quelque chose pour se remémorer ce qu'on a dit ce soir, finalement, c'est ça. Et dit oui. Par Engels, tout de même, qu'est-ce que tu veux? Tu dis c'est un peu dogmatique, hein, c'est... Enfin, moi, ça, je veux dire que, dis-moi, ça prête à discussion, il faut au moins discuter, on ne peut pas affirmer comme ça, l'ouvrage d'Engels sur le même sujet que ce soir est dogmatique, et puis pas ce qui a été dit ce soir. Ça me semble délicat, si tu veux. De même, quand tu dis que, quand matérialisme et empirocriticisme, qui est finalement un des deux seuls ouvrages philosophiques de Lénine avec ses cahiers philosophiques qui n'en sont pas un, qui sont juste des notes, et lui aussi pas le meilleur, c'est délicat. Hein, c'est, disons au moins que chacun sache que c'est une opinion personnelle. C'est probablement pas l'opinion arrêtée du PSU sur la question. Ensuite... Non, mais je ne dis pas qu'il l'a dit. Je dis simplement qu'il est bon que chacun le sache, si tu veux. Parce que sans ça, c'est tellement délicat ce qui se joue ici, puisqu'il ne s'agit pas de définir le marxisme, il s'agit bien de placer une certaine vision du marxisme par rapport, entre autres, au PC, qui en est tout de même à des grands tributaires. Donc c'est quelque chose de très délicat. Ensuite, je voulais dire tout de même qu'il y a une question, moi, qui me semble assez fondamentale et qu'on n'a pas abordée. C'est pourquoi la philosophie, comment ça se fait qu'un c'est un type comme Marx, un philosophe, hein, qui est à l'origine de tout ça, qui a été élevé dans un milieu que maintenant, après lui, on qualifie de petit bourgeois, disons grosso modo, pourquoi, et dans son aspect le plus intellectuel, dans son aspect philosophique, pourquoi a-t-il fallu, hein, que ce soit un philosophe qui vienne finalement faire une théorie de la révolution, ou appelons ça comme on veut, mais enfin, il y a là un problème tout de même, hein, qui est très important, et que je pense que si on ne devait pas commencer par là, il aurait fallu au moins en dire quelques mots. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? Pourquoi la philosophie? Pourquoi une philosophie en liaison avec les luttes ouvrières, avec les problèmes de la révolution, hein, et je pense que si tu veux, ça devrait peut-être être abordé comme sujet, parce que ça touche toute la question que la philosophie finalement traite du rapport de l'homme et ça se veut une connaissance des rapports de l'homme et de la matière. Alors je pense que le Duc en parlera à propos du matérialisme, mais finalement que ceux qui veulent changer, ils ont besoin de connaître. Et que connaître les rapports de l'homme à la matière, connaître le mouvement de la société, à celui qui veut la transformer, c'est strictement nécessaire. Donc, et en revanche, à celui qui veut maintenir le statu quo, celui qui veut maintenir ce qui est, il ne faut pas qu'il ait une connaissance juste de ce que c'est que l'homme, de ce que c'est que la société, parce que s'il avait la connaissance juste, va à l'encontre de ses intérêts de classe. Donc il y a un problème philosophique, hein, qui est un problème de classe philosophique, et je pense que ça, c'est indispensable de l'aborder. C'est-à-dire que le matérialisme, ceux qui veulent changer, ceux qui sont révolutionnaires, qui veulent transformer la société, ont besoin d'une philosophie qui soit finalement une science, alors que ceux qui veulent conserver la société telle qu'elle est, ont besoin d'une philosophie qui soit fausse, qui décrive faussement les rapports de l'homme à la société, à la matière, de l'esprit à la société, ce que c'est que la société.
Qu'est-ce que tu penses alors de ce que Marx dit de la philosophie après la fameuse coupure, ou le seuil, comme tu voudras. Il parle bien de la fin de la philosophie. Il dit que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il faut maintenant le transformer. Et Engels dit carrément que Hegel est le dernier des philosophes. Alors moi je crois que il est très dangereux.
Finisse la phrase de Engels qui dit « Sauf peut-être reste-t-il une philosophie qui serait à ce moment-là justement la science de la connaissance. Hein, » c'est dans Ludwig Feuerbach justement.
Ah, il dit bien hein. « Peut-être ».
Il dit peut-être.
C'est là toute la question. Tu as dit qu'il fallait avoir une philosophie scientifique. Moi, je crois que c'est une question malheureusement trop importante pour la passer sous la table. Les staliniens, parce qu'il faut les appeler par leur nom, considèrent que effectivement, à partir de 1845, Marx fonde deux choses, une science, le matérialisme historique, et une nouvelle philosophie, le matérialisme dialectique. Althusser, pendant un moment, parce qu'il a changé là-dessus, il change beaucoup en ce moment, a dit aussi au début qu'en 1845, Marx rompait avec l'idéologie dans laquelle il vivait auparavant, en fondant une nouvelle science, le matérialisme historique, et en même temps, une nouvelle philosophie distincte du matérialisme historique, le matérialisme dialectique, mais philosophie scientifique. Bon, aujourd'hui, il ne dit plus ça, il considère que la philosophie et la science sont deux domaines différents, et que la philosophie a un rapport, enfin, et la lutte de classe continuée dans la science, et la science apportée à la lutte de classe. Bon, ça, c'est trop compliqué, on ne va pas rentrer dans ces arcanes. Néanmoins, c'est la conception du matérialisme dialectique comme philosophie scientifique. Effectivement, il y a des formules d'Engels qui peuvent aller dans ce sens, encore que c'est toujours accompagné de peut-être, et que, enfin, ça ressort quand même assez nettement de la dialectique de la nature, et en particulier de l'anti-Düring. Bon. Mais il ne faut pas s'imaginer, enfin, moi je trouve que c'est trop compliqué, je trouve qu'on a le droit d'être orthodoxe, n'est-ce pas, en considérant que Marx et Engels, ce n'est pas un bloc soudé dans lequel on ne pourrait rien retrancher, sinon on liquiderait la totalité. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une différence entre Marx et Engels, et je ne suis pas le seul à penser. Le fondateur de l'Institut Marx-Engels à Moscou, qui a été liquidé par les staliniens, j'arrive plus à me rappeler son nom, oui, Riazanov, a soulevé ce lièvre, et il est absolument évident, enfin, on ne peut pas le nier. Je ne dis pas qu'il y a une contradiction totale, mais il n'y a pas une identité parfaite entre Engels et la philosophie de Marx, ou du moins ce que Marx fait de la philosophie. Bon, parce que moi je pense que Marx, lui, il considérait vraiment qu'il n'y avait pas de philosophie marxiste. Le marxisme, d'ailleurs il appelle ça pas évidemment comme ça, hein, le matérialisme historique, autrement dit, c'était une théorie scientifique qui dépassait la philosophie. C'est-à-dire que ça n'était plus de la philosophie. Et il appelait pas ça philosophie scientifique. Alors ça a une importance, parce que s'il existe une philosophie scientifique qui serait, disons, la synthèse des résultats les plus généraux des différentes sciences, je vois pas comment on pourrait la définir autrement, eh bien, on risquerait d'avoir quelque chose qui ressemblerait fort à ce que Marx dénonçait dès son enfance, n'est-ce pas, chez Hegel, c'est-à-dire une logique qui s'imposerait de l'extérieur au monde en mouvement. Une dialectique a priori, n'est-ce pas ? Et non plus la logique spéciale de l'objet spécial, ce que Lénine encore appelait analyse concrète de la situation concrète. Bon. Alors tu as parlé de Lénine et de matérialisme empirio-criticisme. D'abord, il faut quand même signaler que Lénine n'était pas un grand philosophe. Les matérialismes et empirio-criticisme, c'est un ouvrage qui avait peut-être une conséquence, enfin des conséquences politiques plus importantes que ses conséquences philosophiques. Quoi. C'était une défense du marxisme contre le révisionnisme et contre deux sortes de révisionnisme. Révisionnisme droitier, après l'échec de la révolution de 1905, et révisionnisme ultra-gauchiste, n'est-ce pas ? Et je crois qu'il faut le situer comme ça. Bon. Et moi, je ne crois pas, je ne crois pas que ce soit le dernier mot, d'ailleurs, de Lénine en matière philosophique. Et à la meilleure preuve, c'est qu'il a senti la nécessité, l'obligation, le besoin impérieux, au moment où les choses, quand même, étaient politiquement déterminantes, c'est-à-dire après 1914, de lire la logique de Hegel en matérialiste. Évidemment, les cahiers sur la dialectique ne sont pas un ouvrage systématique, c'était pas un philosophe, mais enfin, il donnait cette mission aux philosophes de relire Hegel en matérialiste, mais pas forcément pour élaborer une philosophie marxiste scientifique. Parce que je crois quand même qu'il est très difficile d'imaginer une philosophie qui aurait un statut scientifique, qui soit, disons, la méthode la plus abstraite des sciences, les résultats généraux des sciences, sans prendre le risque de la spéculation, c'est-à-dire de coller ces schémas dialectiques sur une réalité qui n'y rentre pas forcément. Bon, et ce risque, il a existé dans l'histoire du mouvement ouvrier. En particulier, les staliniens s'en sont pas fait faute. On a même abouti à cette théorie que Althusser, il a raison, en l'occurrence, considère comme monstrueuse, défendre les théories biologiques de Lysenko, n'est-ce pas, qui n'avaient pas été démontrées scientifiquement, parce qu'à partir des principes du matérialisme dialectique, on pouvait dire qu'il y avait une science de la génétique bourgeoise et une science de la génétique prolétarienne. Bon, heureusement, ça n'a pas duré très longtemps, ces délires verbaux. Néanmoins, ça existait, et ça partait, d'une certaine façon, d'une conception a priori des choses, où la philosophie, se prétendant scientifique, voulait en imposer à la pratique scientifique. Enfin, alors moi, je crois qu'il y a une différence entre la philosophie et la pratique scientifique. Et pour ma part, je considère que le marxisme, évidemment, ce n'est pas la fin de l'abolition de la philosophie, mais c'est son dépassement, ça n'est plus une philosophie. Bon, on reviendra à ce sujet de tout le cycle. Je pense que ça, c'est un débat qui sera abordé mille fois. Cela dit, il y a un réel débat là, qu'il faudra.
Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais par justement, tu as redit que tout de même, je crois que c'est en 1915 ou 14, alors que tout de même le monde était au début de la Première Guerre mondiale avec tout ce que ça représentait, hein, de pratiques sanglantes, etc., de luttes. Bon, à ce moment-là, Lénine est allé s'enfermer pour étudier la grande logique de Hegel. C'est tout de même, bon, même si ce n'est pas pour faire de la philosophie, c'était bien pour étudier des textes philosophiques. Alors évidemment, philosophie au sens bourgeois, hein, de tromper sur certaines, d'être idéologie, de tromper sur certains rapports n'existe plus, hein, depuis le marxisme, c'est exact. N'empêche qu'il y a un domaine d'études nécessaire. Et qu'est-ce qu'on fait là, justement ? Pourquoi est-ce qu'on est tous attirés par un cycle de formation qui s'appelle marxisme-philosophie ? Hein, c'est donc bien qu'il y a quelque chose et que finalement à notre échelle, hein, qui est évidemment très modeste, nous aussi on ressent à l'heure actuelle le besoin de retourner, on ne sait pas où, hein, mais tout au début des choses pour savoir d'où on part et vraiment essayer de savoir où on va exactement, hein.